J'ai refusé totalement ce qu'il
faut.
Bienvenue à Parole aux auditeurs. Le ministère du Plan et ses partenaires ont publié le rapport MIC de 2010, un rapport sur la situation des enfants et des femmes dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Je ressens de ce rapport que d'une manière générale, ces situations s'est un peu améliorée, néanmoins, elles restent préoccupantes en dessous des seuils acceptables. C'est par exemple le taux de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la nutrition de l'enfant, la sécurité alimentaire, la santé de l'enfant, l'accès à l'eau, à l'assainissement, la santé de reproduction, le développement du jeune enfant, l'alphabétisation, de la protection de l'enfant, la fréquentation scolaire. Voilà, autant de sujets, de secteurs dans lesquels il y a eu une petite amélioration. La question qui va lancer notre émission, que proposez-vous pour une amélioration significative? Nos invités, c'est M. Simon Macaillard de l'Institut National de la Statistique et aussi M. Ronald Van Dijk, chef de la planification à l'UNICEF. Pierre Lamégi, Zofine Nyanga, Clovis Louboula réalise cette émission. Je donne Nyanga, c'est la mise en onde. Et Marie-Santa Lumba vous la présente.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Encore une fois, bonjour, nos invités sont dans ce studio. Bonjour, monsieur Simon Makaya.
Bonjour.
Et comme je l'ai dit au début, vous êtes de l'Institut National de la Statistique. Et aussi, nous avons M. Ronald Van Dijk. Il est chef de la planification de l'UNICEF. Bonjour.
Bonjour.
C'est pas un nom commande, hein. On s'excuse un tout petit peu. Bon, aujourd'hui, nous parlons de ce rapport qui a été publié, un rapport d'une enquête qui a été menée en 2010. Ce sont beaucoup de chiffres parce que nous avons reçu aussi une copie. C'est un document assez costaud avec autant de chiffres difficiles à déchiffrer, mais quand même, on a suffisamment d'informations, que ce soit sur la situation de la femme ou de l'enfant. Nous allons commencer par les grandes lignes de ce rapport. Dites-nous, monsieur Ronald Van Dijk, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? Quelles sont les lignes qui puissent intéresser notre public?
Je crois que, merci pour la parole, et je crois que les grandes lignes, premièrement, il y a des points très positifs ici dans le pays.
Mm-hmm.
Par rapport à il y a une augmentation de nombre de pourcentages d'enfants qui sont vaccinés. Il y a aussi, dans la lutte contre le paludisme, la malaria, il y a une grande augmentation de nombre d'enfants qui dorment sous un moustiquaire imprégné.
Mm-hmm.
Il y a la préoccupation à l'école primaire. Ça a été aussi augmenté pendant les dernières 10 années. Il y a des soins prénatales, accouchement assisté, c'est aussi augmenté. Même, il me faut dire qu'il y a une réduction de la mortalité des enfants pendant les 10 années. Ce sont des améliorations, mais... Il y a aussi une série de choses qui ne sont pas très bien.
Mm-hmm.
Il reste les plans nutritionnels des enfants, qui c'est vraiment un problème. C'est un grand défi au assainissement. Il y a seulement une minorité des enfants nés qui sont enregistrés
à
l'état civil. Ça, c'est vraiment une chose. Prévention du VIH-SIDA, c'est pas bien connu quoi faire. Il y a de grandes différences entre le milieu rural et urbain, entre les provinces. Il y a aussi des différences entre le niveau d'instruction et le riche et le pauvre.
Mm-hmm. Donc il y a vraiment un décalage. Et dites-nous, monsieur Simon Makaya, comment vous arrivez à pouvoir avoir tous ces chiffres qui nous donnent en fait l'indice de la situation des enfants et des femmes?
Merci pour la parole. Donc, nous avons mené cette enquête à travers l'ensemble du territoire national. Nous avons enquêté sur 11 490 ménages.
Mais comment vous les avez choisis?
Ces ménages, comme dans toute enquête, nous les choisissons au hasard.
Aléatoire.
De façon aléatoire. Donc, nous procédons d'abord par une stratification, c'est-à-dire nous découpons le territoire national en différentes strates. Il y a au départ des strates qui sont figées, notamment les provinces. Donc, nous conduisons notre enquête pour chaque province considérée comme un domaine d'étude.
Donc, chaque province, vous avez choisi des ménages et vous avez choisi la catégorie, le niveau de vie de ces ménages. Et vous avez, dans chaque province, il y a autant de ménages ou bien il y a eu des provinces où on a dû choisir le plus grand nombre de ménages?
Non, dans les provinces, on tire un nombre de ménages proportionnellement à la taille de cette
de la population.
Voilà. Mais il y a des provinces à faible densité, à faible population. Nous essayons d'augmenter le nombre de ménages pour pouvoir obtenir des résultats de bonne qualité.
Et les chiffres que vous avez eu de cet échantillonnage, ça vous a permis d'extrapoler sur l'ensemble de la population?
Exactement. Comme il s'agit d'un échantillon, il y a des coefficients de pondération qui sont calculés sur la base desquels on extrapole les résultats.
Merci. Et nous revenons à Monsieur Donald Van Dijk. Vous avez fait allusion à tous ces secteurs, surtout c'est en fait la santé et l'éducation. Est-ce qu'à présent on peut dire que la RDC a quand même atteint le seuil de l'acceptable par les organisations internationales, par exemple concernant le paludisme ou le taux de mortalité infantile?
Non, je voudrais dire naturellement pas, parce que il y a encore
des efforts.
Il y a encore 158 enfants nés qui meurent avant d'acheter l'âge de 5 ans. Il y a encore beaucoup de enfants qui ne font pas à l'école. Et il y a aussi de grands problèmes à l'école par rapport à la qualité de l'école. Il y a beaucoup de enfants qui entrent à l'école, mais ne sont pas prêts pour vraiment commencer en bonne façon dans l'école. Il y a de grands problèmes avec la nutrition, naturellement. Il y a des filles énormes dans ce pays. Mais ce n'est pas toujours dans toutes les provinces eux-mêmes.
Oui, ça dépend d'une province et non des réalités. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est la question de notre émission, celle de savoir, nous allons poser cette question à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils proposent pour améliorer la situation de la femme et de l'enfant? Et tous les auditeurs qui nous suivent, parce que vous êtes plus de 20 millions à travers le monde à nous suivre, si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous écrire à travers pa@radiocopie.net ou composer le 081-893-15-081-893-15 pour que vous puissiez donner votre avis, comme l'a déjà fait Jean qui sont ici à Kinshasa et Odiane.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean.
Oui, bonjour Marie-Chantal, bonjour le chef de la radio Papa.
Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez le choix de choisir sur tous les thèmes qui ont été expliqués, expérimentés, le taux de mortalité de l'enfant, la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé, l'accès à l'eau et l'assainissement, la santé de reproduction ou même encore la fréquentation à l'école. Bien sûr, vous allez choisir le secteur où vous pouvez faire des propositions. Nous vous écoutons.
Ok, merci d'abord de ma part, je vous dis que ma part sélectionnée parmi les auditeurs. Je prends deux secteurs, la santé et l'éducation. Je dis que le système de santé à notre République démocratique du Congo, bien sûr, est vraiment dérisoire. Pourquoi? Parce que bien que les statistiques présentées par l'INPI, nous décrions, en tout cas, sinon, chaque jour, au moins, deux enfants meurent à l'hôpital, faute de soins conséquents. Bon, cela est aussi lié à quoi? À la crise qui sévit dans nos différentes familles, parce que les familles de la ménagère, en tout cas, souffrent énormément. Alors, vous allez remarquer que vous amenez l'enfant à l'hôpital, quel que soit l'état où l'enfant se trouve, on ne peut pas le soigner parce qu'on n'a pas l'argent sur place. Et cela amène immédiatement la mort dans la plupart des cas.
Et qu'est-ce que vous proposez pour réduire le taux de mortalité?
Je pourrais proposer qu'il faut encore que le ministère de la Santé et le gouvernement puissent créer plusieurs centres de santé et placer les infirmiers ou les docteurs compétents. Parce que ce que nous remarquons, c'est parce que dans les différents centres de santé qu'on a créés par là à Kinshasa, là où je suis particulièrement, il n'y a pas de infirmiers compétents. Il y a des gens comme ça qu'on a formés, qu'on a ramassés ici par là, mais qui n'ont même pas une qualification digne de ce nom et ne savent pas qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a tel autre cas. Alors, mettre aussi du sérieux sur ce centre de santé-là, et puis que le ministère ne puisse pas agréer facilement que quelqu'un, dans sa parcelle, il a besoin d'ouvrir un centre de santé, il appelle ses amis, ses connaissances, et puis on le forme pendant deux jours pour prescrire tel médicament, tel médicament pour tel cas. Ce n'est pas bien. Il faut que le ministère ait particulièrement dessus. À ce qui concerne l'éducation, nous remarquons, bien sûr, nous sommes ici à la capitale. Bon, peut-être. Quand on est dans les communes un peu développées, à cette façon, on remarque que bon, l'éducation, ça va. Hein? Mais allez-y, on peut de là de l'aéroport ici, vers Maluku, même c'est plus loin, même vers Pata, au-delà de Kimbasek ici, au fait qu'on va vers Kimbasek ici, vous allez remarquer qu'il y a un nombre accru des enfants qui traînent à la rue.
Donc,
les parents n'ont pas peut-être la possibilité de les envoyer à l'école, la misère chronique.
Merci
donc,
beaucoup.
Je voulais proposer aussi que dans les centres périphériques, dans les milieux périphériques, qu'on puisse créer, non seulement créer les écoles, mais payer les enseignants, parce que ça, c'est un vrai problème.
Merci Jean. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Jean, on vous a écouté, vous êtes revenu sur le problème de crise économique, voir dans quelle mesure assainir le secteur de la santé, notamment si c'est possible d'avoir une enquête de viabilité des structures sanitaires et l'éducation, créer le plus d'écoles possible. Merci Jean de Kinshasa. Odiane, vous êtes ici aussi à Kinshasa, nous vous écoutons.
Bonjour madame et bonjour l'invité. Je suis honorable de parler au Berlin, je suis de la province orientale, mais présentement je me retrouve à Kinshasa.
Et nous vous écoutons, qu'est-ce que vous vous proposez?
J'aimerais intervenir dans les deux secteurs que vient d'évoquer mon prédécesseur, c'est-à-dire la santé et puis la fréquentation à l'école. Madame, je me pose d'abord la question de savoir si la cible de la quête concernait effectivement le district du Haut-Touélé, parce que je viens de là. Je ne sais pas si les enquêteurs ils ont recueilli les désidérateurs de la population de ce coin, parce que la santé, même les moustiquaires dont on fait allusion, moi je ne l'ai pas encore vu dans le Haut-Touélé, là où on distribue des moustiquaires imprégnés pour la population, sauf que la population l'a distribué pour les mamans qui étaient à 7. Mais tous les autres enfants n'en bénéficient pas. Ça, c'est un. À ce qui concerne les soins de santé proprement dit, on ne peut pas en parler parce que si vous quittez Kisangani, vous entrez à l'intérieur, vous ne verrez pas de centre de santé adéquat et suffisant pour faire face aux multiples maladies qui sévissent dans tous ces coins-là. Et deuxièmement, moi-même, à Kisangani sur place, ma fille était malade. Je suis allé, on m'a prescrit le produit, je suis allé chercher ces produits. J'ai passé toute la journée sans même trouver le produit pour cet enfant. Donc ça montre la suffisance que dans le milieu ruraux, c'est encore pire.
Mm-hmm.
Donc, qu'on ne puisse pas nous distraire avec, avec des rapports fantaisistes, parce que moi j'appelle ça fantaisiste, on n'a pas eu le temps d'aller à l'intérieur, on s'est limité dans le centre urbain.
Oui, osez-vous le refaire, les gens, c'est l'éducation, quelles sont vos propositions?
À ce qui concerne l'éducation, madame, c'est encore très grave, parce que je peux vous affirmer que ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas construit des écoles à l'intérieur du pays. Donc, dans ma chefferie d'origine, il n'y a aucune école secondaire. Je vous dis, c'est bien vrai, aucune école, si ce n'est que dans la ville, dans la cité d'Issiro.
Donc, vos propositions, c'est construire des écoles, surtout, faites allusion aux écoles secondaires. Donc, il y a des écoles primaires, mais il faudrait ajouter des écoles secondaires. Merci beaucoup, Odiane. Nous accordons la parole à Passion, qui se trouve à Chimboulou. Bonjour.
Marie Chantal Lomba, bonjour, c'est Passion Chitoko à Bakwankate.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Marie Chantal, pour avancer, je vais vous dire qu'elle n'a pas passé, j'ai fait la question, mais bon, malheureusement, ici, nous n'avons pas un réseau stable de face à ces coupes.
Aujourd'hui, vous êtes avec nous.
À la rivière Moyo. La rivière Moyo, c'est une rivière qui sépare notre secteur de Kassangidi et celle de Dibana.
Et c'est là où vous avez pu avoir le réseau. Nous vous écoutons, vous êtes sur les antennes. Vos propositions, patients.
Oui, maman, Marie, je vais vous dire tout d'abord que nos parents sont condamnables parce que ils gardent leurs enfants à la maison, ils ne envoient pas leurs enfants à l'école, ils sont condamnés à faire l'éducation. Il faudrait construire des écoles ici à l'intérieur. Ici chez nous, par exemple, à Bakwankate, nous avons qu'une seule école secondaire. Voyez un peu le problème qui pose, madame. Et puis, pour la santé, vous trouverez un enfant qui souffre à la maison. C'est pas le père ou la maman qui se fait l'infirmier, qui commence à traiter cet enfant-là avec des médicaments. Qui ne soucie pas. Ce n'est pas du tout normal.
Merci beaucoup. Vous êtes revenu sur la formation du personnel soignant. Et je rappelle à tous nos auditeurs, si vous voulez participer, composez le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à travers l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons dans ce studio. Vous venez de suivre nos trois premiers auditeurs. Jean, Odiane et Patience sont revenus sur la crise économique. Il faudra tout prix que l'économie soit stable. C'est l'une des propositions. L'autre, c'est former le personnel soignant, assainir grâce à une enquête de viabilité des structures sanitaires, créer des écoles, disponibiliser les médicaments, donc autant de propositions. Nous donnons la parole à Monsieur Simon Makaya. C'est vrai que nous avons ce rapport, mais quelle est l'utilité de ce rapport? Parce qu'il y a, par exemple, Odiane qui se pose des questions. Est-ce qu'on est allé dans toutes les provinces? Quelle est l'utilité, en fait, de tous ces chiffres qu'on retrouve dans ce rapport?
Bon, les chiffres dans un rapport d'enquête, d'abord, je voudrais revenir sur les dispositions qui sont prises dans le cadre d'une telle enquête. Je voudrais rappeler à notre auditeur qu'il s'agit d'une enquête scientifique. Et donc, elle a des règles. Lorsque nous faisons un tirage de l'échantillon, nous l'avons dit ici, nous avons considéré chaque province comme un domaine d'étude. Et dans chaque province, nous avons catégorisé les ménages, nous avons distingué les ménages urbains, les ménages des cités et les ménages ruraux.
Vous n'avez pas été obligé, par exemple, d'aller dans le territoire du Haut-Uele, dans le district du Haut-Uele pour avoir des
choses? Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Nous avons dans l'ensemble de la province orientale, le milieu rural. Alors, nous tirons l'échantillon au hasard. Donc, nous ne savons pas au départ si tel district ou tel autre va être tiré. Mais selon la dispersion de l'échantillon, je suis certain qu'il y a des grappes qui sont tombées dans le district du Haut-Uele. Bon, sans doute, c'est un échantillon au hasard. Donc, nous ne pouvons pas dire exactement combien de grappes nous avons eues dans cette district.
Et quelle est alors l'utilité de tout ce chiffre?
Alors, les chiffres ici nous donnent des indications sur les niveaux de nos phénomènes. Nous avons, par exemple, dans le cadre des moustiquaires, nous avons posé la question sur la disponibilité des moustiquaires dans les ménages. Et quand je regarde mes résultats, il ressort que c'est la province orientale est une des provinces où les moustiquaires ont été le plus distribués. Donc la disponibilité de moustiquaires est très grande dans cette province-là.
Mais parce qu'on parle toujours d'un seuil, est-ce que vous pensez que l'ensemble des habitants qui ont une moustiquaire, ça peut permettre de lutter efficacement contre le paludisme?
Bon, bien sûr, disposer d'une moustiquaire, ça c'est une chose, mais dormir sous moustiquaire, c'est ça qui protège les femmes et les enfants. Et là également, je voudrais dire que la province orientale, c'est une des provinces où un grand nombre d'enfants de moins de 5 ans dorment sous moustiquaire imprégné.
En écoutant les auditeurs, on pense qu'il y a encore des efforts à faire.
Oui, bien sûr, c'est pas 100%, c'est pas tous les enfants qui dorment sous moustiquaire. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Et nous donnons la parole à M. Ronald Van Dijk. Vous êtes de la planification à l'UNICEF. Dites-nous, vous avez suivi ces auditeurs, ils ont fait des propositions assez importantes. Revenons d'abord à cette question de distribution de la moustiquaire, parce que vous êtes investi, l'UNICEF est vraiment investi dans ce domaine-là. Comment vous faites pour distribuer ces moustiquaires? Sur quelle base de données vous arrivez à distribuer ces moustiquaires?
Alors, ça fait que nous avons trouvé que la distribution de moustiquaires dans la lutte contre le palud, c'est très efficace. Mais on ne peut pas faire tout le pays dans le même instant. Ça veut dire que ce sont des interventions, on dit, de haut impact. C'est vraiment, et on prend province par province. Et province orientale, oui, c'était déjà fait, inclut le Haut-Ouest. Et maintenant, avec cette enquête, nous avons trouvé que plus de 50% des enfants là-bas, au-dessous de 5 ans, dorment au-dessous au moustiquaire. Ça ne veut pas dire que dans un village, ça c'est le cas. Bon, cette 50%, c'est une moyenne provinciale. Ça veut dire peut-être à Haute-Ouelle, c'est une situation différente. Mais si on va étudier l'impact, l'impact est qu'on peut le mesurer avec le palud, avec la fièvre. Ben, nous avons posé des questions pendant la dernière deux semaines. Votre enfant au-dessous de 5 ans a eu de fièvre ou pas? Et tout le maire connaît ça. Tout le maire, vraiment. Deux semaines, on peut le rappeler. C'est pas facile. On a posé cette question maintenant. Et on a posé cette question aussi 10 années passées, dans la même enquête, en 2001. Et à ce moment-là, on a vraiment trouvé, 10 années passées, c'était 43% des enfants ont eu la fièvre, et maintenant, c'est seulement 27.
Et le seuil? Il n'y a pas de seuil à ce niveau-là.
Ah, le seuil, naturellement, naturellement, on veut que 0%. Ça, c'est la situation. Tous les enfants sont vierges. Et parce que ça, c'est le but. Mais si je peux.
Oui, parce qu'on peut évoluer. L'éducation, la santé, la formation du personnel soignant, fournir l'approvisionnement des médicaments à cette structure de santé.
Je crois que les auditeurs ont des propositions très intéressantes. Premièrement, l'enquête ne donne pas la solution, seulement les chiffres et les situations. Mais les idées sont très, très claires. Je crois que, oui, tous les auditeurs ont parlé d'augmenter la disponibilité et la qualité des services.
Donc, que les personnes puissent accéder facilement.
Oui, plus de parce que c'est vraiment un grand problème ici, la disponibilité, mais aussi l'accès, mais je voudrais aussi ajouter la qualité. Parce qu'on peut aller à l'école, mais si l'enseignant n'est pas de bonne qualité, quoi faire?
Ça ne sert à rien.
Et ça ne sert à rien. Et si on va à le centre de santé et les médicaments ne sont pas là, quoi faire? Peut-être que c'était très coûteux d'aller là-bas et on arrive. Et on a un conseil d'un infirmier ou d'un docteur ou d'un quelqu'un. Mais le médicament de son banan sans faire, sans figure de la qualité.
Mm-hmm. Il y a aussi la cartographie des établissements scolaires. Ils ont proposé pour la plupart qu'on puisse construire davantage d'écoles, surtout dans les milieux ruraux. Et bien, qu'en pensez-vous?
Je suis d'accord avec ça, mais c'est insuffisant de construire un bâtiment. Un bâtiment, seulement un bâtiment. On a besoin, l'école vient avec lui, hein. Ça vient avec des enseignants, ça vient avec un bâtiment avec l'eau et l'assainissement dedans. Ça vient aussi avec un plan d'éducation dans lequel on a tout. Mais ça vient aussi avec les élèves qui sont déjà préparés dans un bon état pour apprendre à l'école.
Nous allons parler aussi de cette crise économique, le panier de la ménagère. Il pense que le fait qu'il n'y ait pas, que les personnes vivent avec, comme on le dit, avec moins d'un dollar par jour, cela ne permet pas aussi de pouvoir améliorer ces situations. Votre point de vue?
Oui, c'est vrai. C'est pas seulement un dollar par jour. Nous avons inclus dans cette enquête et aussi dans les enquêtes des années passées le bien-être, parce que le bien-être est plus qu'un dollar. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture qui n'ont pas dans une économie monétaire. Le bien-être, c'est plus de ça, c'est accès à services sociaux, survivre, etc. Et dans cette période, on a divisé la population dans les quintelles, les plus pauvres et les plus riches.
Mmh.
Et les gens qui sont dans le plus riche, on peut dire, qui ont vie vraiment de meilleure qualité dans tous les aspects, comparé avec les plus pauvres.
Mmh.
Mais ça veut dire aussi que nous avons trouvé que si on est dans le plus riche, on est le moitié des chances de mourir pour les enfants que les plus pauvres. Et ça, c'était le même avec l'éducation. Les enfants du quintil le plus riche ont plus d'accès, peut-être mieux à l'école, etc., comparé avec les plus pauvres.
Oui, les plus pauvres, ouais. Malgré qu'il y ait la volonté. Nous allons suivre Étienne de Guémena, Jonathan de Bounia et Nico de Lubumbashi.
Élection 2011. Émission spéciale Parole aux auditeurs. Si j'étais président de la République, c'est un espace pour faire à nos auditeurs pour présenter brièvement leur mandature. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous dans un secteur déterminé de la NRDC? Rendez-vous avec Parole aux auditeurs si j'étais président de la République. Chaque mardi, je rendez-vous de 11h à 10h, heure de Kinshasa, nous avons capé.
Parole aux auditeurs.
La première émission spéciale est prévue pour ce 1er novembre. Tous les auditeurs peuvent déjà s'inscrire. Si vous étiez président de la République, quelle serait la priorité des priorités pour le développement de notre pays? Nous revenons à notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de ce rapport du ministère du Plan avec ses partenaires, un rapport sur la situation des enfants et des femmes dans le secteur de la santé et de l'éducation. C'est vrai que ce rapport démontre que la situation s'est un peu améliorée, mais il y a encore beaucoup à faire, elle reste préoccupante. Que proposez-vous pour une amélioration significative? Jonathan, vous êtes à Bounia, bonjour. Bonjour Jonathan. Nous avons perdu Jonathan de Bounia. Nous donnons la parole à Nico, bonjour.
Oui.
Nico, vous êtes à Lubumbashi, nous vous écoutons. Non, c'est pas trop. C'est Nico ou Jonathan?
Non, c'est Jonathan.
C'est Jonathan. Ok, oui, alors nous revenons à Jonathan. Jonathan, nous vous écoutons.
Alors, premièrement, je voulais juste parler du problème de santé.
Mm-hmm.
Chez nous, ici, au bas du lac, il y a beaucoup de fois, les enfants souffrent des problèmes de perte. Alors, si je dis ça, à l'hôpital ailleurs, vous allez trouver qu'il y a des problèmes de basse pression. Alors chez nous ici, comme il fait très chaud, et les enfants sont en train de souffrir des problèmes de santé, surtout à la couronne des pertes du sang. Alors, je ne sais pas si le gouvernement passe quoi sur nous et ailleurs ici.
Oui. Et Jonathan, mais qu'est-ce que vous avez constaté cela? Il y a des problèmes d'anémie chez les enfants, ça peut être lié à diverses maladies, mais souvent c'est le paludisme, ce que nous disent les hommes de santé. Mais dites-nous, Jonathan, qu'est-ce que vous vous proposez pour pouvoir améliorer cette situation spécifique que vous rencontrez à Bounia?
Bon, surtout, il y a un problème de paludisme. Nous insistons beaucoup sur le problème de moustiquaires. Vous allez arriver des stades, des hôpitaux, vous n'avez pas trouvé même de moustiquaires. Il y a aussi des bébés là qui souffrent comme ça, et ça, ils en vivent sans le moustiquaire. Et partout, ça se passe partout dans des villages, partout par là. Alors, on ne sait pas si le. Là, comment est-ce qu'on peut faire? C'est en vous de.
Merci Jonathan. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe pour lutter contre le paludisme? On avait souhaité que Jonathan, vous qui êtes à Bounia, vous savez que le gouvernement doit faire ceci, doit faire cela, mais vous à Bounia, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le paludisme? Vous nous retournez la question. Merci. Nico, vous êtes à Lubumbashi, j'espère que cette fois-là vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour l'invité, bonjour tous les auditeurs de Radio Kaki.
Et vos propositions, Nico?
Oui, nous voulons à le secteur de la santé que le partenaire puisse appuyer d'abord les centres de santé qui existent déjà, qui sont appuyés avec des médicaments ou bien des matériels, des soins. Donc, on peut avoir des soins de santé de qualité. Et puis, l'accessibilité aux soins n'est pas favorable. Tout le monde, en tout cas, comme il y a des commerces qui existent maintenant dans des secteurs de santé, des centres de santé qui naissent partout et dans n'importe quelle circonstance, si le gouvernement poursuit tout le monde et voir qui peut ouvrir le centre de santé et qui peut s'occuper des personnes en qualité de soins de santé, on peut avoir des soins de santé de qualité. Et que le partenaire puisse appuyer d'abord des centres de santé qui existent. Ça, on peut avoir des soins de santé de qualité.
Essayons aussi de réfléchir dans le temps. C'est vrai que la RDC a connu une situation déplorable et il y a eu des actions d'urgence qui sont souvent ponctuelles. Et il faudrait dire qu'effectivement, il y a les partenaires qui continuent à appuyer le secteur de la santé. Mais à long terme, Nico, que pensez-vous qu'il peut se faire pour consolider cela?
Bon, il n'y a pas de suivi dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Si il appuie et puis il y a des suivis derrière, je pense en tout cas ça va bien marcher.
Merci Nico de Lubumbashi, Etienne, vous êtes à Gemena, bonjour.
Bonjour à vos papés et bonjour à tous les auditeurs et les invités qui sont au plateau.
Oui, vos propositions, Etienne?
Ok, merci madame. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la réponse qu'a donnée le planificateur à nos présidents intervenants. Mais à mon avis, je pense que ce rapport publié par le ministère du Plan, c'est un rapport non fuyé. Ils l'ont fait d'une manière non fiolée parce que, madame, on croit à dire qu'il y a une avancée. Moi, j'ai dit non parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès aux soins médicaux et la plupart de ces enfants souffrent de maladies purement hydriques, de paludisme et surtout les cas d'anémie qui est vraiment fréquent dans notre contrée à Gemena. Et la prise en charge pose problème et cela entraîne la perte en vie humaine pour les enfants de bas âge. Alors, aussi, s'il faut parler de l'éducation, madame, je dois vous dire qu'il n'y a pas, si nous prenons le nombre des enfants scolarisables et par rapport aux enfants scolarisés, donc on constate que le taux des enfants scolarisables dépasse les enfants qui devraient être à l'école, donc les scolarisés. Et croire ou affirmer qu'il y a une avancée, moi vraiment j'ai dit que non. Alors j'avais quelques propositions à donner. Je voudrais proposer que le gouvernement puisse faire tout pour qu'on puisse assurer une formation continue des professionnels de la santé. Que les corps soignants puissent avoir des formations pour acquérir des expériences, parce que par-ci, par-là, parfois, il y a des épidémies, il y a des maladies qui arrivent et qui, parfois, est difficile aux professionnels de la santé de pouvoir les traiter. Mmh. Aussi, en ce qui concerne l'éducation, donc moi, je pense qu'on doit vraiment chercher à ce que tous les enfants à l'âge scolaire puissent être à l'école. Alors, comment ils peuvent être à l'école s'il n'existe pas d'infrastructure scolaire adéquate et s'il n'y a pas des enseignants bien formés et bien traités? Donc, je pense à mon avis, si aujourd'hui ceux qui sont déjà à l'école, les enfants qui sont à l'école, ils posent problème pour leur prise en charge, pour leur éducation, et que le ministère du plan doit nous affirmer qu'il y a une avancée. Moi, je pense que vraiment, on doit faire vraiment une étude d'une manière vraiment fouillée, vérifiée, vérifiable, afin de pouvoir donner à la population une véritable confession.
Oui, et qu'elle restait en ligne, plutôt, restait branchée sur Radio Capi, sur la 95.4 de Guémena, parce que nos invités vont vous donner les chiffres exacts concernant la scolarisation des enfants, comme ça pourrez vous-même, à votre avis, voir si elle cadre avec la réalité que vous vivez à Guémena. Neville, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Neville, nous vous écoutons.
Oui, moi je crois que pour améliorer la situation de la femme et de l'enfant, il faut aussi, d'abord je prends le premier aspect, celui de l'éducation, il faut accroître la part allouée au secteur de l'éducation dans les budgets nationaux.
Mmh.
Alors, comme ça, par exemple, le fait qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, ça fait comme ça pour le secteur de l'éducation, seulement dans le primaire, on peut aller jusqu'en sixième, et ça peut s'étendre sur toutes les limites de notre pays. Ça, c'est d'abord d'une part. Mais par rapport à vous pouvez se faire bien de dire qu'il n'y a certainement pas d'avancée très significative. Il y en a, mais si les enfants sont un peu lents, là, elles sont lentes. Et même s'il faut dire que le taux de la réception scolaire est assez amoindri, mais il faut aussi voir la qualité de l'enseignement. Et même les infrastructures scolaires elles-mêmes, je crois qu'elles ne sont pas bonnes. Elles sont dans un état de développement très avancé pour la plupart. Mais néanmoins, il faut aussi saluer certains efforts qui sont en train d'être fournis dans ces sens.
En tout cas, la qualité des liaisons téléphoniques est en train de se détériorer. On n'arrive plus vraiment à vous suivre. Mais en gros, vous souhaitez qu'on puisse allouer davantage des fonds pour l'éducation dans le budget de l'État. Et vous reconnaissez qu'effectivement, il y a des avancées, mais qui ne sont pas très visibles. Mais vous aussi, restez en ligne, Neville, pour pouvoir suivre en fait les chiffres qu'ont donné l'enquête concernant l'éducation de l'enfant. Nous prenons Joseph de Colévis. Bonjour. Bonjour, Joseph.
Bonjour, madame.
Et Joseph, nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions
pour pouvoir suivre cette émission?
Nous vous écoutons.
Notre position, mes propositions sont les suivantes. Que les partenaires puissent nous aider à lutter contre l'automédication. Parce qu'on constate dans certaines familles, il suffit de constater quelques symptômes ou prescrire lui-même un médicament qui ne connaît même pas les modes d'action.
Mm-hmm.
En plus de cela, que la population puisse consulter le personnel soignant lorsqu'ils constatent le premier symptôme de la maladie. Et que nos partenaires puissent nous aider à améliorer aussi les niveaux de vie de la communauté.
Merci Joseph de Colosi. Colosi, bien sûr, c'est dans la province du Katanga. Et nous poursuivons cette émission. Bien sûr, si vous voulez y participer, 081-890-6315 ou pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Simon Makaya, nous commençons par vous, les chiffres, parce que beaucoup, la plupart de nos auditeurs se posent des questions, est-ce que ces chiffres sont réels? Est-ce que vous pouvez nous donner ces chiffres concernant la scolarisation, en fait, de l'enfant? Qu'est-ce qui ressort de cette enquête?
Ok. Donc, l'UNICEF met un accent particulier sur la fréquentation scolaire au niveau primaire. Alors, nous retenons généralement au cours des enquêtes l'indicateur suivant, c'est le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire. Et lorsque nous parlons d'avancée ou de progrès, c'est par rapport aux années antérieures. Donc nous avons élaboré les chiffres, nous avons compilé les chiffres et nous avons étudié l'évolution de ces taux nets. Il s'agit des enfants de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire. Alors, en 1995, l'enquête MIPS 1 a évalué le taux net à 56% d'enfants. En 2007, avec l'enquête TDS, le taux net a été évalué à 75%. Actuellement, avec l'enquête MIPS 2010, le taux est évalué à 75% d'enfants de 6 à 11 ans qui fréquentent actuellement l'école.
Une amélioration?
Donc, je pense que l'amélioration est là. Bien entendu, on n'a pas atteint tous les enfants. On est loin d'atteindre tous les enfants.
Et quel serait l'idéal? C'est tous les enfants.
L'idéal, comme prône l'objectif, c'est tous les enfants à l'école.
C'est évident.
Donc, normalement, on devrait arriver à 100%,
mais disons, là, c'est
on a constaté pour l'ensemble du pays.
C'est déjà quelque chose.
C'est déjà quelque chose.
Et quels sont en fait les paramètres qui ont aidé à ce que l'enfant aujourd'hui, on puisse arriver à ce chiffre-là, à votre avis?
Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de ça. Tous les enfants à l'école, c'était un slogan qui a été lancé. Et je pense qu'il y a eu énormément de sensibilisation. Mmh. Et il y a également eu, je pense, des actions concrètes. Mais peut-être, M. Ronald...
M. Ronald va nous donner d'autres précisions à ce propos, parce que l'UNICEF a vraiment été impliqué dans ces campagnes. Toutes les filles à l'école, comme on l'appelle, mais c'est tous les enfants, en fait. Et dites-nous, qu'est-ce qui peut être fait en ce moment-ci pour qu'on arrive, on atteigne les 100%?
Ben, vraiment, c'est une priorité énorme, parce que dans le développement, spécialement les filles, vraiment, vont être, parce que les filles sont les mères de l'avenir. Et avec les mères qui ont une bonne santé et une bonne éducation, c'est sûr que les enfants aussi seront en bonne santé. Mmh. Ça, c'est une relation dans tous les pays, pas seulement les pays.
Mmh.
Et pour faire, oui, vraiment, il y a déjà mentionné quelque chose ici, je crois que c'était Tatienne qui a parlé de stress polaire.
Mmh. Hein? La gratuité.
La gratuité. Ça, je crois que c'est un droit de l'enfant d'être à l'école. Et vraiment de éliminer tous les contraintes.
Mm-hmm.
Et une des choses est le stress scolaire. Mais, sans stress scolaire, il reste encore le transport. Il reste aussi le salaire des enseignants. Si l'enseignant n'est pas là, n'a pas de salaire, comment il ou elle va travailler? Il y a la fourniture de l'école. L'école a besoin d'un budget. Vraiment. Et ça veut dire que il y a une demande vraiment en ADT pour l'éducation primaire et secondaire.
Mm-hmm.
Ça n'est pas le cas. La population est intéressée vraiment d'envoyer leur enfant à l'école. Mais aussi de l'autre côté, et pas seulement des partenaires, mais aussi du gouvernement, c'est absolument nécessaire de éliminer les contraintes.
Oui. Il y a par exemple Nico Dumbashi qui a parlé de suivi dans, par exemple, les projets qui sont en train d'être exécutés. Et que pensez-vous?
C'est quoi? Naturellement, tout le monde va suivre l'implémentation des projets. Et spécialement, si on parle de Katanga, comme mon collègue Simon a déjà mentionné que oui, maintenant, 2010, il y a 75% des enfants sont à l'école primaire.
Mm-hmm.
C'est comme ça. Mais à Katanga, une des provinces les plus riches avec les ressources, c'est seulement 66%.
66% pour la province du Katanga.
Pour la province du Katanga. Pourquoi est-ce ça? Ça, c'est une question que nous avons à tout le monde à Katanga. Pourquoi là-bas, c'est moins dans la RDC globale?
Et par exemple, est-ce qu'on essaie de faire, est-ce qu'on essaie de voir quelle est la première province où il y a le moins d'enfants qui va à l'école, le Katanga se situe à quel niveau?
Le Katanga, c'est une des provinces où il y a de plus grands problèmes. Aussi avec les autres indicateurs, ça nous avons étonné, vraiment. Nous avons comparé toutes les provinces. Et si on prend tous les indicateurs de santé, mortalité, vaccination et scolarisation ensemble, et la protection, ça, personnellement, moi j'avais fait étonner que Katanga, Kasaï oriental et Kasaï occidental, ce sont les trois provinces avec les plus grands problèmes et le manioma.
Ce n'était pas lié aux minerais, les enfants préfèrent aller dans les mines.
Facilement, mais on ne peut pas répondre à cette question simplement. C'est une combinaison des choses. Et comme le problème avec la scolarisation, ce n'est pas seulement le fait scolaire, c'est aussi les salaires et la fourniture et le bâtiment, et etc. C'est toujours une combinaison. Et la réponse dans chaque province est différente.
Il y a aussi cet avis de Joseph, il est allé plus dans le secteur de la santé et parle de l'automédication comme aussi une des causes du fait que la situation ne s'améliore pas tellement pour la femme et l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
La médication et la disponibilité de médicaments, etc. Je crois que c'était Joseph ou et Joseph et aussi Nico qui a mentionné le rôle de partenaire. Je crois que c'est une bonne idée, mais on a aussi besoin de savoir que le rôle de partenaire ici en ADC est énorme. Vraiment, c'est énorme. Par exemple, tous les vaccins ici en ADC sont payés par les bailleurs, par les partenaires internationaux.
Et c'est une part du gouvernement aussi.
Non. Tous les patients ici, inclut le polio, inclut tous les patients, le DTC, etc. et le BCG contre le tuberculose. Tous les patients venus de dehors et sont payés avec le fonds de l'extérieur. Et ça, c'était une chose que personnellement, ça m'étonne. Normalement, c'est un gouvernement qui le paye. Et maintenant, l'ADC dépend complètement par les contributions de l'extérieur du pays. Ça, c'est une chose que je crois ça peut changer.
Donc, c'est avec le temps, il faudrait qu'on arrive à augmenter cette auto-prise en charge du gouvernement. Nous allons écouter des postes aussi à Kinshasa, Valentin de Kindu, presque de Mbujimayi. Vos propositions pour l'amélioration de la situation de la femme et de l'enfant.
Élections 2011. Émission spéciale Parole aux auditeurs. Si j'étais président de la République, c'est un espace offert à nos auditeurs pour présenter brièvement leur mandature. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous dans le secteur de Tamil en RDC? Rendez-vous avec Parole aux auditeurs, si j'étais président de la République, chaque mardi et vendredi, de 11h à 12h, heure de Kinshasa, nous avons parlé.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Dépol.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes ici à Kinshasa, vos propositions.
Alors, madame, comme vous pouvez vous en rendre compte, la solution passe par l'amélioration des conditions socio-économiques des parents, particulièrement. Je me voulais aborder un peu la question sur le plan de l'éducation, de l'enseignement. Comme les invités l'ont bien souligné et d'autres auditeurs, je pense que la solution passe par la gratuité de l'enseignement de la première année secondaire primaire jusqu'à la sixième. Et que cela se fasse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le problème ne se pose pas seulement à l'intérieur du pays. Même ici à Kinshasa et à Lubumbashi, il y a certains parents qui ne sont même pas en mesure de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et lorsque cela doit être en application, que cela soit suivi par des mesures d'accompagnement concrètes. Vous avez par exemple remarqué ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Il y a gratuité de la première en troisième à l'intérieur. Mais à mon avis, cela n'engage que moi. Cela a été fait pour des fins électorales peut-être. Parce que il n'y a pas de mesure d'accompagnement. J'ai suivi dernièrement, à travers votre radio peut-être, au Katanga, dans une certaine zone, les enseignants viennent à peine de reprendre les enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en grève et ils ont conseillé les parents à continuer à les prendre en charge alors qu'il y a gratuité de l'enseignement. Donc je pense que le gouvernement doit bien étudier cette question, voir s'il y a gratuité, quelles sont les mesures d'accompagnement. Combien d'écoles avons-nous qui pourront recevoir tous ces enfants qui ne sont pas encore à l'école? Et si tous ces enfants viennent, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les enseignants soient motivés et continuent à donner cours normalement? Cela pourrait certainement résoudre le problème en rapport avec l'enseignement.
Oui, Paul, mais vous savez nécessairement qu'il y a quand même des frais de fonctionnement que reçoivent certains les établissements où la gratuité est effective.
Mais c'est ça le vrai problème. Est-ce que le gouvernement avait bien étudié la question? Est-ce que ces frais-là sont suffisants pour permettre à ces écoles de fonctionner normalement?
Merci, Paul de Kinshasa. Valentin, vous êtes à Kindu. Vos propositions?
Bonjour, Madame Marie.
Nous vous écoutons, Valentin.
Je vais intervenir sur des thèmes. Premièrement, d'abord, au niveau de l'éducation. Monsieur Maniema, c'est les parents qui entraînent l'éducation ici. Précisément, d'abord, à Kalima, là, il y a tant de chantiers de minerais. C'est les enfants qui font ce travail-là. Mais les parents ne disent rien.
Donc, à votre avis, il faudrait sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation, le fait d'aller à l'école, c'est ça, Valentin, votre proposition?
Effectivement. Deuxième thème.
Oui.
Pour les cours, pour les santé, ici au Maniema, c'est le chef, mais c'est une des zones qui bouffe cet argent.
Quel argent, s'il vous plaît?
L'argent que le gouvernement finance pour les problèmes de santé.
Donc, c'est l'impression que vous avez. Donc, c'est un problème de gestion dans ces structures. Valentin, merci. Nous donnons la parole à Prince, qui se trouve en Bougimaï. Bonjour. Bonjour, Prince.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kaki.
Nous allons vous demander de pouvoir suivre l'émission à partir de votre téléphone portable. N'attendez pas le retour à travers votre radio ou votre poste émetteur. Là, c'est pas assez difficile. Il y aura toujours un blanc entre votre réponse et ma question. Donc, Prince, nous vous écoutons.
Oui, Marie-Chantal. Je suis très content de votre émission et de tous les auteurs qui sont intervenus. Je voulais dire que dans tous les états du monde, les secteurs de la santé et les secteurs de l'éducation font partie des secteurs décisifs du gouvernement. Mais il se fait que dans notre pays, les budgets alloués à ces secteurs est toujours minime. Au point que toutes les propositions qu'on peut faire, s'il n'y a pas de budget conséquent, peuvent rien apporter au changement de ces deux secteurs. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, comme vous l'avez dit dans l'enquête, au Café Oriental, et du Katanga, les résultats sont alarmants, les résultats ne sont pas bons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de très longtemps, et même du temps belge au Café Oriental. Plus d'enfants allaient à l'école à cause de mine et de tout ça. Mais aussi maintenant, ça s'est aggravé avec la pauvreté qui est dans la province. L'Aniva, qui était le poumon de l'économie du Café Oriental, est presque par terre. Et les gens se débrouillent pour avoir l'argent pour envoyer des enfants à l'école. C'est tout un problème. Je pense que ce que je peux proposer à l'État congolais, c'est que la gratuité de l'éducation pour l'école primaire, comme c'est consacré dans la Constitution, qui a été promulgué par le président de la République, que cela soit respecté. Parce que je pense que ce n'est pas les moyens qui manquent dans notre pays. Les moyens sont là, mais c'est la volonté politique de faire étudier les enfants congolais qui manquent. Le deux, il y a eu près de 5 ans, il y avait parmi les chantiers de la République, l'éducation faisait partie. Mais combien d'écoles sont construites au Kassai Oriental pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler? Alors que les gens font un peu beaucoup de propagande autour de ça. Je pense que l'État congolais doit revenir, si jamais c'est lui qui va être élu. Il faut penser à la construction d'écoles parce que les enfants qui étudient du temps belge, ce n'est plus le même nombre. Les enfants se sont multipliés. Il y a beaucoup d'enfants, alors que c'est toujours les écoles du temps belge qui sont fréquentées par les enfants kassaïens. Deux, en ce qui concerne les secteurs de la santé, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Même au niveau des professionnels de santé, et même au niveau des structures, les professionnels de santé, quelle est la formation qu'ils reçoivent aujourd'hui dans les items, et même dans nos universités? Et qu'ils arrivent qu'on vende le point aux professionnels, aux futurs professionnels de santé, alors que ces gens devront travailler sur les corps humains, et même les corps humains de ces professeurs que mon est le point.
En tout cas, merci. En tout cas, Franck, nous avons plus suffisamment de temps parce que à 11h juste, nous aurons notre bulletin d'information, bien sûr, chaque mercredi. Nous avons deux parties, parole aux auditeurs. Après ce bulletin d'information, nous aurons une seconde partie. Nous aurons encore 15 minutes d'échange sur la situation de l'enfant et de la femme. Dans ce studio, nous avons nos deux invités. Je vous invite à suivre dans quelques secondes notre bulletin d'information et nous allons vous redonner la parole pour que vous puissiez réagir face, bien sûr, aux avis de tous ces auditeurs.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Nous poursuivons cette émission. Dans ce studio, nous avons M. Sylvain Makaya, qui est de l'Institut National de la Statistique, et M. Ronald Vandet, qui est chef de la planification à l'UNICEF. Et nous sommes en train de discuter, d'échanger concernant la situation des enfants et des femmes avec ce rapport mixte qui a été publié, le rapport mixte 2010. Selon ce rapport, il ressort que, d'une manière générale, la situation concernant la santé et l'éducation pour les femmes et les enfants s'est un peu améliorée. Néanmoins, dans certains domaines, elle reste préoccupante. Donc, il faudrait à tout prix l'améliorer. Et la question, quelle en est l'émission? Que proposez-vous pour une amélioration significative? Nous avons suivi déjà plusieurs auditeurs qui ont donné leur point de vue. Nous avons écouté Otsudi et bien sûr le tout dernier auditeur, parce qu'il nous en faut encore deux pour que nous puissions clôturer cette émission. Nous allons donner la parole après à nos deux invités qui vont agir, mais qui vont se conclure. Bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces chiffres s'améliorent? Otsudi, bonjour. Bonjour Otsudi. Nous avons perdu Otsudi, le temps de recomposer le 081-890-6315 et nous allons le rappeler pour qu'il puisse intervenir. Monsieur Ronald Vandek, vous avez suivi nos auditeurs, la dernière série, le temps que nous puissions repêcher nos deux derniers auditeurs. Ils sont revenus sur le budget qu'il faudrait nécessairement allouer dans ces deux secteurs, l'éducation et la santé, pour permettre en fait que ça s'améliore davantage, mais aussi ils ont fait allusion à la volonté politique. Ils disent que c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Naturellement, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que les Nations Unies et inclus l'UNICEF, nous sommes pas dans la politique.
Mmh, donc vous faites...
Mais nous sommes des techniciens, hein, avec des conseils, etc. Ce qui est très intéressé avec par rapport à tous les auditeurs ont vraiment souligné l'importance de l'éducation, parce que ça, c'est clé pour le développement. Mais ils ont parlé beaucoup par rapport à l'offre de l'éducation des services, hein, le budget, nous avons parlé de qualité, etc. Mais je voudrais aussi ajouter que, oui, aussi par rapport à la santé et l'éducation, mais il faut aussi n'oublier pas que l'eau assainissement, hein, parce que ça fait une partie essentielle et de l'éducation et de la santé. Parce que nous avons maintenant, en RDC, malheureusement, des épidémies de choléra. Et ça, c'est une chose facilement à éviter, à prévenir. Nous avons aussi le problème de manque d'enregistrement à l'état civil. Ça, c'est une chose parce que chaque enfant, chaque personne a le droit d'une identité. Mm-hmm. Et ça commence déjà à ce moment-là. Et les deux, et au finissement, et protection, enrichissement de naissance et d'état civil, sont des éléments nécessaires pour vraiment faire un succès de le développement et amélioration dans le secteur santé et éducation. Ça, c'est dans le développement. Et n'oubliez pas tout le secteur, oui, dans, malheureusement, à l'est du pays, où se trouve beaucoup de 1,5 million d'habitants qui sont déplacés, qui ont besoin de services plus mobiles pour faciliter la transition et l'assistance dans les urgences.
Oui, et Monsieur Simon Makaya, nos autres sont venus sur le budget. Il faudrait allouer plus de fonds à l'éducation, à la santé. En tant que statisticien, il faudrait combien d'argent, par exemple, pour qu'on puisse arriver à atteindre l'objectif?
Non, ça c'est une question vraiment très difficile. Il est difficile de quantifier le budget qu'il faut pour pouvoir augmenter, parce que effectivement, ce n'est pas seulement le budget qui entre en jeu dans l'accroissement des inscriptions ou dans la fréquentation scolaire. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont changé. Il y a la volonté des parents, il y a un auditeur qui l'a souligné ici. Et puis il y a la disponibilité des écoles. Donc le budget seul ne suffit pas, mais il est évident que si le budget est important, on peut mieux payer les enseignants, on peut construire d'autres écoles, etc. etc.
Et à votre avis, quel serait en fait l'idéal? Un budget, par exemple, de l'État pour allouer peut-être 30% à l'éducation?
Je pense qu'autour de 30%, ça devrait avoir un impact important.
Nous allons écouter nos deux derniers auditeurs, puis nous allons revenir à vous. Trudy, j'espère que peut-être que là vous êtes au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, en une minute, parce que là nous n'avons plus assez de temps. Vos propositions, Trudy?
Oui, la proposition pour la bonne éducation, je pense que l'éducation, c'est sans la base de la vie même. Alors, il faudra d'abord que l'État puisse prendre les choses au sérieux. On dit qu'il faut d'abord un bon budget, surtout sur la section de l'enseignement. Vous savez que l'enseignement ici, en tout cas, c'est dire en état, il y a, ça ne va pas. Parce que vous allez remarquer qu'un enfant, par exemple, qui est déjà sous les des humanités, mais en tout cas, qui n'est pas capable de faire une situation de stagiaire de ses années. Alors là, vraiment, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on doit d'abord bien payer, surtout les enseignants. Parce que quand l'enseignant est bien payé, il ne peut jamais accepter des corrections. Il va vraiment prendre les choses au sérieux.
C'est votre point de vue, aujourd'hui nous n'avons plus vraiment beaucoup de temps. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de Chabunda. En une minute, vous avez la parole.
Merci, madame. Bon, c'est la même chose que ce que les précédents intervenants ont souligné. La problématique ici, c'est au niveau de l'éducation, effectivement, la scolarisation des enfants, c'est tous les pires. Puis l'inscription des enfants à l'état civil. Ah, vous connaissez que Chabunda, c'est le territoire le plus vaste de la province du Sud-Kivu, mais dont c'est vie jusqu'à au moment où je vous parle, il n'y a aucun militaire congolais, donc les enfants n'ont pas accès facile à l'éducation, mais également l'état de la vraie des infrastructures sociales, bien des écoles et consorts. Donc nous proposons que réellement la sécurité ici soit vraiment assurée, mais également à ce qu'on revoit. On ne peut pas vouloir une chose qui est son contraire. La loi est claire et la pratique sacrée. Il fallait que vraiment l'UNESCO, plutôt je vais dire l'UNICEF, qui donne des objets classiques aux élèves au niveau des écoles primaires, qui a moyen qu'on transforme ça à une gratuité, surtout chez nos filles.
Merci.
C'est le système vraiment
soyez vraiment pertinent.
Merci beaucoup, merci Chabunda. Nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Ronald Vandeck, en conclusion, nous avons ces chiffres, ce rapport. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Non, premièrement, je crois que merci pour toutes les suggestions. Une idée vraiment, si on parle du budget, il y a beaucoup d'exemples dans le monde avec des pays qui ont vraiment amélioré la situation de l'éducation. Mais je connais certains de pays qui ont investi vraiment de 30% de leur budget annuel dans l'éducation et pas seulement pendant une année, pendant 10 années ou 20 années. Et ça sera vraiment, je crois, une nécessité d'échapper de la cercle de la pauvreté ici en Éthiopie.
Donc l'éducation à la base de tout.
L'éducation de base et l'éducation de le développement. Mm. Et en même temps, il y a amélioré tous les aspects de services de santé. Mm-hmm. Et il y a la sensibilisation par rapport à l'assainissement et le droit de l'enfant en général et l'enregistrement de naissance.
Mm-hmm. Ben, nous donnons la parole à M. Kumamakaya. En conclusion, nous avons ces données, c'est un outil assez important pour le développement de la femme et des enfants et de l'ensemble du pays. Qu'est-ce que vous nous dites?
Oui, je voudrais, pour conclure, rassurer nos auditeurs que cette enquête mixte a été menée selon les règles de l'art et l'enquête a été suivie par au niveau national et au niveau international. Et les données que nous avons publiées sont des données de bonne qualité. Mais il s'agit des données descriptives. Donc nous avons donné une description et nous pensons que les chercheurs vont utiliser la base de données qui existe pour fouiller et essayer d'identifier les facteurs qui peuvent expliquer tous les phénomènes que nous avons mis à jour.
En vue d'une amélioration, bien sûr.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus dans notre studio pour échanger avec les auditeurs sur ce rapport qui est assez important. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui nous ont suivis, que ce soit en FM ou connecté sur www.radiocapi.net, sans oublier aussi ceux qui sont intervenus avec leurs avis qui étaient vraiment, vraiment constructifs. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
Et en prélude de la Journée nationale de l'épargne qui est célébrée chaque 31 octobre, nous vous proposons ce sujet-là pour demain. La question, que proposez-vous pour améliorer la pratique de l'épargne en RDC? Vous pouvez réagir dès à présent nous écrivant à l'adresse internet qui est @radiocapi.net. À demain. Thank you.